De Fanny à Ayla, l'histoire de la participation des femmes en droit belge expliquée à ma fille par Nathalie Bous. Parce que la démocratie doit elle aussi être résiliente, le RCR Carré ouvre une ligne éditoriale, imaginaire politique. Elle est dédiée à l'évolution de l'état de la démocratie en Belgique et aux innovations qui peuvent la revivifier. Le texte de Nathalie en est une première illustration. À travers une conversation avec sa fille de 17 ans, Nathalie cartographie ce que le droit belge offre aujourd'hui à une jeune citoyenne. Pétitions, consultations populaires, commissions délibératives et initiatives citoyennes européennes. Mieux, Nathalie ancre ce panorama dans le temps long, en remontant jusqu'à Fanny Van Dorp, épouse d'un congressionniste de 1831, puis à son arrière-grand-mère centenaire. Cela nous montre d'où viennent ces droits, à quel prix ils ont été conquis, et combien il serait imprudent de les tenir pour acquis.
Maman, j'ai une super idée pour mieux organiser l'accueil des réfugiés en Belgique. Comment je fais pour la mettre en place? Je n'ai pas encore 18 ans, donc je ne peux rien faire moi-même.
Ah, ma fille, j'adore tes idées. Tu m'en parles?
Mais ça ne sert à rien, je suis mineure. La loi me voit comme une mineure et n'est pas intéressée par mes idées.
Ah, mais là, tu te trompes. Il y a en fait pas mal de choses que tu peux déjà faire, même mineure. Mais il est vrai que dans quelques mois, à tes 18 ans, là, tes options seront bien plus nombreuses.
Je peux déjà faire des choses? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire, moi qui n'ai que 17 ans? Je sais seulement que je peux voter aux élections européennes. J'ai été aux urnes pour la première fois en juin. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je me sentais prise au sérieux.
Oui, c'est une belle occasion, la première fois aux urnes. Sais-tu ce que c'est une pétition?
C'est comme une question qu'on pose.
Oui, c'est ça. Eh bien toi, à 17 ans, tu as le droit de poser une question au Parlement. Aussi bien le Parlement wallon à Namur que le Parlement fédéral à Bruxelles. On appelle ça adresser une pétition.
Je peux faire ça? Comment je le fais?
Très facile. Pour le Parlement wallon, tu peux le faire en ligne. Tu te connectes avec It's Me sur le site du Parlement wallon. Là, il peut vérifier que tu as bien au moins 16 ans et que tu habites en Wallonie. Tu peux poser toute question qui est en rapport avec les compétences de la région wallonne. Mais la question doit bien sûr être respectueuse, ne peut pas être en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ça va de soi. Ta question doit aussi être bien formulée et concrète. Qu'est-ce que tu pourrais poser comme question au Parlement wallon?
Je ne sais pas. La question des migrants, ça ne relève pas de la compétence de la région wallonne, n'est-ce pas?
Non, ça c'est une question à poser au Parlement fédéral. On pourra y revenir.
J'ai trouvé. J'ai entendu dire qu'en Wallonie, il y a des fabricants d'armes, pas vrai? Comment est-ce qu'on sait que ces armes ne vont pas au conflit en Israël? Ça m'enrage ce qui se passe là-bas, en Palestine, ces enfants qui ne peuvent aller nulle part et se trouvent au milieu de la guerre. Moi, je ne veux pas que la Belgique envoie des armes là-bas. Qu'est-ce que le Parlement wallon en dit? Je pourrais poser une question à ce sujet?
Très bien! En effet, ça tombe sous la responsabilité de la région wallonne, les licences pour l'exportation des armes. Tu pourras aller voir. Sur le site du Parlement, on trouve toutes les pétitions qui ont été déposées et tu peux aussi signer celles que tu veux soutenir.
Cool, je vais y réfléchir.
Et c'est pas tout, tu as encore d'autres possibilités. Depuis 2018, en Wallonie, il est possible en tant que citoyen de demander une consultation populaire.
Ah, c'est comme un référendum ça.
Eh bien c'est similaire, mais c'est différent sur un point crucial. Dans les deux systèmes, il s'agit d'inviter la population entière à s'exprimer sur un sujet donné en répondant à une ou plusieurs questions. Le but est de pouvoir trancher sur une alternative donnée. L'organisation est similaire, en fait, comme pour une élection. Tu vas au bureau de vote et tu exprimes ton oui ou ton non sur la question du jour. Ce qui est intéressant pour toi ici, en Wallonie, chaque habitant, à partir de l'âge de 16 ans, peut participer. La différence entre les deux systèmes est que le résultat de la consultation populaire, c'est un avis, alors que pour le référendum, le résultat est décisionnel et les autorités se doivent d'y donner suite. Mais en Belgique, un référendum, ça n'existe pas.
Je pourrais donc voter dans une consultation populaire wallonne.
Oui, et tu peux aussi être à l'initiative d'en demander une. La question doit porter sur une compétence de la région wallonne et tu l'adresses au président du Parlement wallon.
Ah, donc je pourrais formuler ma question sur la fabrication des armes en consultation populaire aussi.
Oui, mais il faut que tu trouves 59 999 autres signataires pour qu'elle soit validée.
Oh là là, c'est beaucoup ça.
Ben oui, c'est probablement pour ça qu'on n'en a pas encore eu jusqu'à présent. On peut se demander si la région wallonne veut vraiment que ce système fonctionne. Une autre possibilité que tu as, c'est de demander au Parlement wallon une commission délibérative.
Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Oui, c'est assez nouveau chez nous, ça. Il s'agit d'une commission qui est composée de citoyens tirés au sort et de députés qui débattent d'une problématique déterminée d'intérêt général afin d'en élaborer des propositions et des recommandations.
Je peux être tiré au sort pour y participer. C'est trop chouette.
Ah, malheureusement, non. Pour être tiré au sort, il faut remplir les conditions pour élire le Parlement, c'est-à-dire avoir 18 ans.
Donc je peux faire la demande pour une commission délibérative, mais je ne pourrai pas y participer. Trop bizarre. Bon, mais sur quel sujet est-ce que cela pourrait porter, cette commission ?
À nouveau, le sujet doit porter sur une compétence de la région wallonne. Et la suggestion doit être signée par 2000 personnes.
Ça me semble déjà un peu plus faisable.
Au niveau fédéral, Ayla, voyons un peu ce que tu pourrais faire. C'est à ce niveau que se pose ta question sur l'accueil des migrants, par exemple. On a déjà vu que tu peux introduire une pétition. En ligne, c'est facile. Et si tu as 24 999 co-signataires, tu pourras être entendu à la Chambre pour défendre ta question ou ta proposition.
Je pourrais peut-être provoquer une consultation populaire sur la question des migrants ou une commission délibérative pour venir avec des propositions.
Hélas, ces possibilités n'existent pas au niveau fédéral. Dans la Constitution belge, un amendement stipule que des consultations populaires peuvent être organisées au niveau des régions, mais pas au niveau fédéral.
Juste la pétition alors pour mon idée sur les migrants.
Pour le moment, oui. Et lorsque tu auras 18 ans, tu pourras voter dans les élections législatives pour un candidat de ton choix. Il reste encore d'autres niveaux, Ayla. Par exemple, celui de la commune, ta commune de Genappe. Beaucoup d'aspects qui touchent à notre village sont décidés par le conseil communal et les échevins communaux.
Avec le même bourgmestre depuis 35 ans.
Ben oui, monsieur Couronné, il est très populaire. Ces dernières années, lui et son collège communal ont mis en place des moyens pour les citoyens de s'impliquer davantage pourtant. Nous avons par exemple un gestionnaire de la participation à la commune. Tu le connais d'ailleurs.
C'est Olivier qui travaille pour la commune.
C'est bien lui. Pour la plupart des possibilités de participation, il faut avoir 18 ans. Par exemple, à tes 18 ans, tu pourras faire une interpellation au conseil communal, donc poser une question directement devant tout le conseil qui se réunit chaque mois. C'est une chose qui arrive assez régulièrement, mais Olivier me dit que ce sont rarement des jeunes qui interpellent. Voilà donc une opportunité pour toi d'y apporter du changement. C'est un moyen de poser publiquement une question, de faire une proposition, de s'emparer d'un problème dont le collège n'avait peut-être pas conscience. Par contre, tu peux déjà poser ta candidature pour siéger au CLDR. C'est la Commission locale de développement rural. Cette commission supervise la mise en œuvre du plan communal de développement rural à travers des projets très concrets et un travail de terrain. Par exemple, aménagement de la place de Bouzeval ou le parc de la Dille, promotion de l'identité genappienne, création d'une maison des jeunes, promotion du sport au sein des écoles, embellissement des espaces publics. C'est une chouette commission dynamique et ils cherchent des profils variés pour avoir une bonne représentation des habitants. Le renouvellement de la commission, c'est ce mois-ci, Ayla.
Ça pourrait bien m'intéresser de voir comment ça fonctionne, une telle commission, et ce qu'on peut faire réellement.
Oui, c'est un bon niveau pour commencer. Au niveau de la commune, il va y avoir aussi un système de conseil consultatif où des élus et des citoyens débattent ensemble et émettent des avis. Mais Olivier est encore occupé à le mettre en place pour Genappe. Et enfin, à tes 18 ans, tu pourras être appelé comme assesseur de bureau de vote ou être témoin lors des élections. À Genappe, il suffit juste d'exprimer ton envie pour pouvoir y participer. Ils sont toujours à la recherche de volontaires. C'est un chouette moyen pour mieux comprendre comment sont organisées les élections.
Oui, je me rappelle quand tu as fait ça, maman. Tu étais trop enthousiaste. Ça m'a bien donné envie de le faire aussi.
Il reste encore un autre niveau, Ayla. C'est le niveau européen. Là, les règlements mis en place sont plus récents et on voit que l'âge de 16 ans est omniprésent. Tu peux déjà participer à l'élection du Parlement européen.
Ça, je sais. C'est ce que j'ai fait en octobre dernier. Mon candidat n'a d'ailleurs pas eu sa place au Parlement.
Par contre, tu peux pas encore poser ta candidature toi-même. Ce sont les pays membres qui décident sur ce point. Et pour la Belgique, il faut avoir 18 ans pour pouvoir être candidate. Mais aussi, tu peux soumettre, toi, une pétition au Parlement européen concernant une compétence de l'Union européenne. Il y a également la possibilité de t'allier avec des personnes d'autres pays membres et de lancer une initiative citoyenne. Si vous arrivez à collecter 1 million de signatures dans 1 an, vous serez entendu par la Commission européenne sur le sujet de votre initiative.
Impossible de collecter 1 million de signatures.
Si. À l'heure actuelle, il y a déjà eu 10 initiatives citoyennes qui ont été prises en compte. Je te conseille d'aller regarder sur le site du Parlement européen pour voir quelles sont les initiatives soumises en ce moment que tu pourrais soutenir.
Ouais, tu as raison. En fait, j'ai déjà pas mal de possibilités pour participer. Mais maman, je me demande comment c'était pour Tante Pete à l'époque. On a fêté ses 100 ans en février, donc elle en a vu des choses dans sa vie. Et comme je la connais, elle est toujours pleine d'idées originales, toujours au service des autres. Est-ce qu'elle aussi avait toutes ces possibilités pour faire valoir ses idées ? Sûrement, elle pouvait aller voter, mais toutes ces autres choses, est-ce qu'elle pouvait les faire aussi ?
C'est une très bonne question, Ayla. Justement, je viens de lui en parler il n'y a pas très longtemps. Mais pour te répondre, je voudrais commencer par te parler de Fanny Van Dorp.
Fanny ? C'est qui cette Fanny ?
Fanny, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de ta grand-mère au Mamish. Elle est née en 1791 à Courtrai, quand la Belgique n'existait pas encore. Elle venait d'une famille d'industriels du textile de la Flandre occidentale. Elle était assez bien instruite, venant d'une famille d'entrepreneurs. Elle s'est mariée en 1827 et elle a eu 2 fils. Sa vie de famille a donc plus ou moins commencé en même temps que la Belgique. Je voulais t'en parler pour montrer d'où on vient en termes de droits de femme. On peut se demander ce qu'elle avait comme droit de participation à son époque, elle, Fanny.
Je me doute bien qu'elle avait moins de possibilités que moi.
C'était en effet très limité. Mais c'était aussi une toute autre époque. Elle s'est mariée avec Léonard Van Dorp, qui avait 7 ans de moins qu'elle. Léonard venait d'une famille très libérale. Son papa avait été fortement touché par les idées libérales de la Révolution française lors de sa formation de chirurgien à Paris. Le fils, lui, se lance dans le business du textile. Et c'est là qu'il rencontre Fanny. Léonard, c'est ton ancêtre qui a participé activement au Congrès national de 1830-31.
1830, c'est la naissance de la Belgique.
Exactement. Et le Congrès national, c'est la grande conférence où des représentants de tout le territoire belge étaient réunis pour discuter de la nouvelle constitution après l'indépendance de la Belgique. Léonard était un des élus de Courtrai pour représenter sa ville. Notre famille est très fière de sa contribution et on le voit comme un des fondateurs de la Belgique. À Bruxelles, sur la colonne du Congrès, tu peux aller chercher son nom.
Ouais, je ne savais pas.
La nouvelle constitution qu'ils ont écrite en 1830-31 était une des plus libérales d'Europe à l'époque, garantissant des libertés très modernes.
Mais pas le droit de vote pour les femmes.
Non, pas encore. La femme peut ni voter, ni être élue, et elle ne peut occuper aucune fonction publique dans la toute jeune Belgique. Comme on a dit, la mentalité du temps n'y était pas encore. Faut pas oublier, le code civil de Napoléon venait d'être instauré dans nos régions, et celui-ci était fondamentalement inégalitaire, fondé sur la puissance du mari et le devoir d'obéissance de l'épouse. Juridiquement, la femme mariée est au même niveau qu'un enfant mineur. Ce code a continué à dominer notre société pendant longtemps encore. Pourtant, la nouvelle constitution instaure d'autres libertés bien importantes, comme la liberté de presse et d'opinion, liberté des cultes, liberté d'enseignement, liberté de réunion et d'association. C'était des avancées importantes pour l'époque. Toutefois, elle n'instaure pas vraiment la démocratie comme on la comprend aujourd'hui. Le droit de vote reste réservé à une petite minorité d'hommes payant un certain montant d'impôts directs, selon le système appelé suffrage censitaire. Il n'y a même pas de discussion encore sur le droit de vote pour femmes.
Donc Fanny ne pouvait pas aller voter en 1831, mais Léonard, oui.
Lui, il le pouvait, oui, parce qu'il était homme et pouvait payer le cens. Mais il n'y avait pas encore l'obligation du vote, comme on le connaît aujourd'hui. Lors de ses premières élections, quelques 46 000 hommes ont voté pour les législatives. C'est très peu sur une population de 4 millions de Belges.
Ah oui, en effet, ça ne représente que 1,2% de la population.
Tout va bien pour le calcul mental chez toi. C'est très peu, en effet, et c'était voulu ainsi. L'idée à l'époque était qu'un électeur devait disposer de certaines aptitudes et d'une certaine indépendance économique pour pouvoir voter librement.
Vraiment d'autres idées, ça.
Fanny est décédée en 1852. Elle n'a plus vu de grands changements dans le droit pour femmes pendant sa vie, ni dans le vote masculin non plus d'ailleurs. Il faut attendre 1894 pour une nouvelle étape importante, le suffrage universel plural pour les hommes. C'est une histoire à la belge. tous les hommes de 25 ans ont obtenu le droit de vote, mais certains disposaient de un ou deux votes supplémentaires en fonction de leur statut ou fortune. Ce ne sont que les petits-enfants de Fanny qui ont connu ce changement. Et là, on est déjà chez le grand-père de Omamiche.
Ce n'est pas juste ce vote plural.
C'était un compromis. Les ouvriers luttaient pour le suffrage universel pur et simple depuis de nombreuses années déjà. Les premières pétitions déposées au Parlement datent de 1866, mais la vraie campagne des mouvements ouvriers et de certains jeunes libéraux commence déjà en 1864. Mais ça prend du temps. La classe politique au pouvoir est conservatrice et résiste à ce changement, qui est pourtant instauré dans les pays avoisinants. Pour sortir de l'impasse, le compromis du vote plural est décidé. En 1894, finalement, 1,3 million d'électeurs vont aux urnes. Le vote est d'ailleurs devenu obligatoire en même temps.
Donc on passe à 20% de la population qui peut voter. C'est déjà mieux, mais encore très maigre. Je sais qu'aujourd'hui, on est à 71%.
En effet, et pas encore question de vote pour femmes en 1894. Mais ce système de compromis de vote plural ne perdure pas très longtemps. Après la Première Guerre mondiale, il est intenable de plus avoir le suffrage universel pur et simple, ni de priver les jeunes hommes entre 21 et 25 ans qui ont combattu pendant la guerre du droit de vote, ni de dénier les femmes le droit de vote. Les débats au Parlement fédéral sont multiples et longs, et une partie importante de ces discussions est consacrée au droit de vote pour femmes. Mais à nouveau, cela résulte en un compromis.
Je sais déjà, pas encore de vote pour les femmes.
Non, pas encore complètement. Mais il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Les grands partis politiques de l'époque n'étaient pas d'accord. Le suffrage universel pour hommes et l'âge de vote à partir de 21 ans sont passés assez facilement. Finalement, voici ce qui en ressort pour les femmes. Les femmes sont éligibles à tous les niveaux, mais sont électrices seulement aux élections communales. Il y a quelques exceptions encore. Les veuves des militaires tués pendant la guerre ou les veuves ayant perdu un fils pendant la guerre obtiennent le droit de vote aux législatives également. Mais pour pouvoir se porter candidat, il faut le consentement du mari.
Une petite avancée.
Lors de ces premières élections communales où les femmes étaient éligibles, on arrive à 6 bourgmestres féminins. Pour obtenir le vote féminin aux élections fédérales, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en 1948, la loi est votée et en juin 1949, elles peuvent aller voter pleinement pour la première fois.
Vraiment, ça a pris beaucoup de temps en Belgique.
Si on s'en retourne à Fanny, dans la toute jeune Belgique, on voit donc bien que dans la loi belge, il n'y avait pas grand-chose pour elle. Le droit à la pétition, comme je t'ai expliqué pour toi, existait déjà puisqu'il est inscrit dans la Constitution dès 1831. Mais est-ce que dans les faits, elle y avait droit aussi en tant que femme? Eh bien oui. Une collègue qui travaille au Parlement fédéral a été fouillée dans les archives. Elle retrouve des pétitions du 19e déposées par des femmes. Ce qui est sûr, c'est que le droit de pétition était beaucoup plus puissant à cette époque que vers la fin du 20e siècle et même aujourd'hui. Le jeune Parlement voulait se crédibiliser et pour chaque pétition déposée, un rapport était dressé et une présentation orale prévue. Fréquemment, des pétitions résultent en de propositions de loi. Au fil du XXe siècle, l'importance des pétitions diminue et change. Moins de pétitions politiques, plus de pétitions dites « plaintes ». Alors, voyons un peu. Ton arrière-grand-mère, Tante Pete, avait 18 ans en 1943. Comme on a vu, elle n'avait pas le droit d'aller voter dans les élections législatives. Et il y avait deux raisons. Déjà, à cette époque-là, il fallait avoir 21 ans pour aller voter. Mais en plus, le suffrage pour femmes n'était pas encore acquis pour les législatives. Elle a eu ses 18 ans en pleine guerre. Le pays était bien occupé par autre chose que le suffrage féminin. Une grande partie des hommes étaient absents des foyers pour combattre ou étaient envoyés dans des camps de travail en Allemagne. Les femmes ont alors assuré beaucoup de responsabilités, travaillé dur dans les usines. C'est d'ailleurs pour ça, selon Tante Pete, que le suffrage féminin a suivi très vite après la guerre. Les mœurs avaient bien changé. Donc la première fois qu'elle a été votée pour les élections législatives, c'était en juin 1949, à ses 24 ans, en même temps que la première fois pour sa maman.
Est-ce qu'elle se rappelle de l'occasion?
Elle s'en rappelle, oui, plus ou moins. Mais pour elle, rien d'anormal. Ça ne voulait d'ailleurs pas dire qu'elle n'avait pas été active auparavant. Tante Pete, en tant que jeune fille, s'amusait la nuit, en cachette, d'aller écrire à la chaux le nom du parti choisi sur les murs des usines et sur les routes. N'oublie pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier ni de brochures à distribuer. C'était donc le moyen pour soutenir et faire connaître un parti politique. Sa maman faisait du porte-à-porte avec des tartes pour informer les gens sur quel parti ils devaient voter. Toute la famille votait et soutenait le même parti d'ailleurs. C'était vraiment une affaire familiale. C'est très marquant d'ailleurs. Elle a voté le même parti toute sa vie jusqu'en octobre dernier. Et elle se rappelle bien de l'unique fois où un de ses frères a voté différemment. Il y a 80 ans, c'était une grande exception et très largement discutée. Ensuite, théoriquement, elle avait aussi la possibilité d'introduire une pétition. Mais ça, elle ne le savait pas. Elle n'a d'ailleurs jamais visité le Parlement non plus dans toute sa longue vie. Comme tu te doutais sûrement, il n'y avait pas encore de consultation populaire ni de commission délibérative. Bien que, il y a une grande exception dans l'histoire belge. Une consultation populaire très particulière a eu lieu en 1950 pour demander au peuple belge si le retour du roi Léopold III était souhaité. Cette consultation a été organisée juridiquement au niveau local et provincial, mais sur tout le territoire belge en même temps. Bien qu'une consultation ne puisse être contraignante, le roi s'était engagé à respecter le résultat du scrutin.
Et le roi est revenu.
Oui, le vote était serré, mais en faveur d'un retour du roi. Donc voilà, ma fille, un peu d'histoire sur la participation politique des femmes en Belgique. Et alors, Ayla, que penses-tu de tout ça?
Bon, je trouve ça quand même pas mal compliqué avec ces différents niveaux d'autorité qu'on a en Belgique, ou en tout cas qu'on a aujourd'hui. Comment s'en sortir? Il faut déjà très bien connaître les compétences de chaque niveau pour savoir à qui s'adresser pour déposer une pétition, par exemple. Est-ce communal, régional, fédéral ou européen? C'est un peu décourageant. Par contre, j'aime vraiment bien ces nouvelles possibilités de consultation populaire et de commission délibérative. J'espère être tirée au sort un jour pour pouvoir participer dans une de ces commissions délibératives. Et je vais réfléchir à ma question à poser pour provoquer une consultation populaire en Wallonie. C'est dingue aussi comme les femmes avant moi ont dû lutter pour obtenir ce que je trouve normal aujourd'hui. Pour Fanny, elle, en 1831, elle n'avait pas de moyens de participation, à moins que ce ne soit par le biais de son époux. Pour Tante Pete, à ses 21 ans, c'était aussi encore très limité. On était juste sortis de la guerre, d'accord. Mais heureusement qu'à partir de ses 24 ans, elle pouvait participer comme ses frères. Normal, enfin. Et je ne savais pas non plus que pour moi, à partir de mes 16 ans, en fait, je peux déjà faire plein de choses dans la vie politique. Il faudrait qu'on nous en parle plus à l'école, qu'on connaisse mieux nos droits. Je dois absolument en parler à mes amis. Merci pour cette conversation, maman. J'ai l'impression de mieux connaître ma patrie. Elle n'est pas mal, en fait, notre Belgique.
Merci d'avoir écouté la première transposition audio d'un article du RCR Carré. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, nous vous conseillons vivement de parcourir la version PDF de cet article disponible dans la partie ressources, articles et dossiers du site du RCR Carré. Vous y découvrirez une bibliographie abondante.